Here comes touchdown! Here comes first down, says Red Cashin.
Vous êtes sur la zone payante et c'est la semaine du Super Bowl. On a Stéphane Cadorette qui est sur place et on est en compagnie aussi de Jean Carrier. Et c'est le moment, les gars, de débuter notre match. Et pour le match cette semaine, je vous propose de parler des équipes en présence. Parce que c'est pas deux équipes là, qu'on peut parler. Des gens qui suivent le football comme moi depuis longtemps, on les connaît pas. Là, on sait pas tant, c'est pas deux gros. Ben, en fait, Los Angeles, c'est maintenant un gros marché, mais c'est pas deux équipes qu'on est habitué de voir dans au Super Bowl. Et c'est pas deux équipes qu'on connaît par cœur. À commencer par les Bengals. Et Jean, toi d'ailleurs, au début de l'année, tu nous avais dit hey, « les Bengals, regardez-les, ils sont bien équilibrés, une belle mentalité, t'aimes bien leur entraîneur. » Présente-nous donc un peu l'équipe de l'Ohio. Quel genre d'équipe que c'est? Est-ce que c'est vraiment une équipe qui vient de leur division où le jeu au sol est souvent préconisé? Puis de quelle façon ils ont bâti leur équipe pour se rendre au Super Bowl?
Offensivement, ils l'ont bâti, je pense, de la façon assez moderne. Là. C'est plus nécessairement le style de l'AFC Nord où est-ce que tu poundes le jeu au sol, que tu essaies de le mettre dans la gorge de l'adversaire. C'est pas ça du tout. Puis évidemment, c'est une équipe qui a marié les forces de son carrière, son jeune carrière, Joe Burrow, qui a donné des outils pour travailler. Évidemment, Ja'Marr Chase, cette année, une saison exceptionnelle comme recrue. T. Higgins est excellent. On l'a vu aussi lors du match face aux Chiefs. Si tu mets trop d'emphase sur un joueur, t'auras pas de problème à lancer la balle avec Higgins. Puis écoute, on en reparlera pour le match, mais il pourrait avoir un gros rôle à jouer aussi dans cette rencontre-là. Évidemment, t'as quand même un bel équilibre parce que t'as aussi un excellent porteur de ballon avec Joe Mixon. Puis t'as quelques vétérans dont t'as Tyler Boyd, le receveur, qui est un excellent, je pense, slot receiver, là, un excellent troisième receveur. Uzuma aussi, qui est l'ailier rapproché, qui est le vétéran. Il y a le leader émotif, je dirais, des Bengals. C'est un des vrais vétérans là, des Bengals qui est là depuis les tout débuts avec Tyler Boyd depuis le début de sa carrière, sa huitième saison. Puis c'est un gars qui est très important pour eux. Il est quand même un ailier rapproché athlétique. Puis évidemment, on se pose des questions là, sur son statut dans la rencontre. Ce qu'il faut mentionner, défensivement, c'est une défensive qui joue beaucoup de défensives de zone. C'est pas une équipe qui aime blitzer, vraiment pas. C'est une équipe qui aime ça en général, mettre de la pression à quatre joueurs de ligne défensive. Mais on l'a vu face aux Chiefs. Ils peuvent avoir des game plans où ce que ça change, des plans de match où ce qu'ils en utilisent juste trois, comme on a vu en deuxième demi. Mais je serais surpris que ce soit le même plan de match là, face aux Rams, qui est une attaque complètement différente de celle des Chiefs.
Bon, puis les Bengals, Jean, disons que les auditeurs, il y a plusieurs personnes qui vont regarder le Super Bowl pour le premier match de l'année quasiment de football, parce que c'est pas juste des partisans de football qui regardent le Super Bowl, mais ils veulent s'intéresser un peu au match. C'est quoi les joueurs, c'est quoi les numéros, c'est qui qu'on doit suivre du côté des Bengals en fin de semaine?
Évidemment, moi je pense que tout part du carrière. Là. Joe Burrow, c'est la grosse tête d'affiche des Bengals. C'est le joueur de franchise. Puis son surnom, je pense qu'il dit tout, Joey Franchise. Écoute, c'est pas mal ça. C'est le numéro 9. Dans les joueurs vraiment, je pense, spectaculaires, Ja'Marr Chase, c'est le numéro 1. C'est un receveur dynamique, très, 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 très explosif. Puis comme j'ai mentionné, T. Higgins, le numéro 85. En défensive, tu as aussi des bons joueurs. Tu as Trey Hendrickson, qui est un ailier défensif, athlétique, il est capable de mettre la pression sur le carrière. L'autre ailier défensif, le numéro 94, c'est Sam Hubbard. Ensuite, dans la tertiaire, je trouve qu'il a joué un excellent match face aux Chiefs. Le vétéran Eli Apple, lui, il n'a pas nécessairement commencé sa carrière avec les Bengals, mais il donne un fier coup de main. Je trouve qu'il a été très, très, très solide lors de la dernière rencontre. Donc, c'est pas mal les joueurs, je pense, qui peuvent retirer l'attention.
Jesse Bates, le maraudeur, c'est un des meilleurs de la ligue à sa position.
Je suis d'accord. Un autre point que j'aimerais mentionner aussi, c'est les Bengals, pour les partisans, il y en a très peu des partisans des Bengals au Québec, mais il y en a pareil. ça reste que c'est un historique important. Même les propres partisans, ils sont pas sûrs encore d'être capables de battre la mentalité de perdant qui était un peu attaché à l'équipe. C'est une équipe qui est allée deux fois au Super Bowl, qui avait des bonnes équipes dans les années 80, début 90. Ils ont perdu en 82 face aux Niners et en 89, encore une fois face aux Niners et Joe Montana. Puis c'est la fameuse drive là, que Joe Montana était revenu de l'arrière puis avait brisé le cœur des Bengals avec une passe à John Taylor sur un skinny post. Puis les Niners l'avaient emporté 20-16. Puis depuis ce temps-là, ça avait été la traversée du désert. Là. Ça a été une quinzaine d'années quasiment, jusqu'à les années milieu 2000. Ça a été, je pense, 15 ou 16 saisons perdantes consécutives. Ensuite, Marvin Lewis est arrivé comme entraîneur-chef. Ça s'est redressé, mais il n'a jamais eu confiance envers cette équipe d'avoir du succès et certainement du succès en série. Et là, comme par magie, Joe Burrow arrive, puis on sent que la culture autour de l'équipe a complètement changé. Est-ce que cette équipe-là est capable de faire le miracle puis ramener le Super Bowl à Cincinnati? Écoute, on va le savoir dans très bientôt, on va le savoir dimanche soir, mais une chose est sûre, c'est que c'est plus le même aura autour des Bengals de Cincinnati. On peut plus les appeler les Bungles, les gars.
C'est vrai. En fait, on pourra pas leur enlever leur participation au Super Bowl de cette année, certainement. On va voir de quelle façon ils vont se comporter dans le match. Et deuxième essai, Stéphane, on s'en va te voir parce que là, ils partent favoris, les Rams. Ils sont à domicile. Ils ont une équipe de vétérans. Ils ont des bonnes lignes à l'attaque, bonnes lignes à la défense. Présente-nous donc un peu l'équipe de Los Angeles.
Ben les Rams, depuis quelques années déjà, c'est la culture du tout pour le tout. Tu sais, écoute, ils ont pas de choix de première ronde depuis 2016, puis si ça change pas, ils en auront pas avant 2024. C'est très, très rare qu'on voit ça dans la NFL. Sais-tu quoi? Pour eux autres, ça fonctionne. Depuis que Sean McVay est l'entraîneur-chef, donc 2017, 21 transactions. Tu sais, ça bouge les Rams. Là. Ils n'hésitent jamais à faire un move pour améliorer leur alignement dans le moment, sans nécessairement là, tu sais, considérer que les premiers choix sont sacrés et sont sains et sont intouchables. Cela dit, c'est trompeur un peu, parce que on se dit souvent, ouais, les Rams ils se foutent du repêchage, c'est carrément pas vrai. Ils ont échangé des choix de première ronde, ça attire beaucoup l'attention, mais c'est l'équipe qui a eu le deuxième plus haut total de choix au repêchage depuis 2017, avec 45 choix. T'sais, c'est une moyenne de 9 par année, c'est beaucoup. Ce que ça veut dire, tout ça, c'est qu'ils repêchent plus tard, mais ils repêchent très bien. Si vous regardez leur alignement, là, il y a beaucoup de choix de 3, 4, 6e, 7e ronde qui font partie de leur alignement. Donc, c'est leur philosophie un peu, les Rams, de dire « on peut aller chercher de bons joueurs étoiles avec nos premiers choix. Pour le reste, concentrons-nous à bien repêcher. » Donc c'est ça. Leur style, ben écoute, sont très créatifs offensivement avec Sean McVay, on le sait. Beaucoup de motions, des formations très variées. C'est une équipe qui passe beaucoup. Là, on parle d'un ratio d'environ 60% de passes par rapport à la course. Donc, tu sais, c'est un Super Bowl qui pourrait amener des flamèches, là, évidemment. Défensivement, tu sais, Jean parlait des Bengals avec leur pression à 4 joueurs, pas beaucoup de blitz. Les Rams, ça va être une pression à 4, parfois 5, avec Leonard Floyd aussi là, qui se met de la partie. Mais c'est une équipe qui joue beaucoup avec deux maraudeurs en profondeur. Là. Tu sais, ce qu'ils vont faire, eux autres, leur jeu, c'est de forcer les Bengals à être patients, à se contenter de courts gains. C'est là qu'on va voir si Joe Burrow peut tenir la route dans ce contexte. Là, je pense que oui. Mais c'est une équipe là, qui va vraiment vouloir éliminer les fameux longs jeux à Ja'Marr Chase et T. Higgins, parce que c'est souvent là que les Bengals ont fait mal aux autres. Puis c'est une équipe qui, tu sais, qui est composée vraiment, qui met ses vedettes à l'avant-plan. Là. Qu'on parle du corps arrière, Matthew Stafford, les receveurs, évidemment, Cooper Kupp, le numéro 10, Odell Beckham, le numéro 3. Tu sais, c'est des stars à leur position, là, vraiment. Kupp, qui est fort probablement le joueur offensif de l'année dans la NFL avec sa triple couronne. Puis en défensive, c'est pareil. On mise sur vraiment la part de tout le monde, oui, mais quelques joueurs défensifs en particulier qui ont un statut de vedette. Aaron Donald, le gros plaqueur au milieu, 99. Ceux qui s'adonnent à regarder le Super Bowl, qui c'est un de leurs premiers matchs, qui suivent pas trop les joueurs défensifs, regardez-le aller à quel point il est disruptif, il explose la pochette, il se ramasse tout le temps en face du corps arrière. Jalen Ramsey, le demi de coin, évidemment, numéro 5. Ça, j'ai hâte. Contre Ja'Marr Chase, ça devrait être du bonbon. C'est sûr qu'il sera pas aligné contre lui tout le temps. Mais honnêtement, moi, il n'y a pas une confrontation qui m'allume plus que celle-là, là, ça, c'est sûr.
Le 5 contre le 1.
Exactement. Le numéro 1 dont Jean parlait tantôt, Jalen Ramsey va être, je pense, pas mal souvent dans sa face. Quoi qu'on on déplace beaucoup Ramsey dans la défensive des Rams. Là.
Les Rams, c'est une équipe qui aime jouer du homme à homme. Hein? Donc, ouais. Ça, il faut le mentionner, beaucoup plus que les Bengals.
Fait que, tu sais, je pense qu'ils vont se voir quand même souvent, puis ça va donner du bonbon. Puis un joueur que j'aimerais que les gens surveillent, Andrew Whitworth, le bloqueur le plus âgé de l'histoire à 40 ans, le bloqueur à gauche du côté des Rams, numéro 77. Écoute, il a joué à peu près toute sa carrière à Cincinnati. Quand il s'est amené avec les Rams, il y a quelques années de ça, c'était en apparence une solution très court terme. Là. On voulait amener du leadership, peut-être qu'il soit là un an ou deux. Tu sais. Finalement, il est encore là, il est encore capable de tenir son bout. Vraiment une histoire intéressante que celui-là qui joue contre son ancienne équipe. Là, ça aussi, c'est pas mal intéressant.
Troisième essai, les boys, on s'en va à des quelque chose que j'aime parce que quand on est question de Super Bowl, on parle toujours de statistiques, d'ailes de poulet vendues, bien consommées, mais il y a toutes sortes de fun facts quand même autour du Super Bowl. Puis là, je vous ai demandé de faire un peu de recherche là, puis de me revenir avec des choses qui pourraient intéresser nos auditeurs puis qui pourraient leur donner un air intelligent aussi quand ils vont en parler autour, parce que là maintenant, on va pouvoir regarder le Super Bowl avec nos amis en fin de semaine à la maison. Donc, qu'est-ce que nos auditeurs pourraient dire pour avoir de l'intérêt, pour créer de l'intérêt là autour d'eux dimanche lors du match? Stéphane, t'en as-tu des fun facts le fun?
Ah, il y en a tout le temps des fun facts le fun. Regarde, j'en ai un. On parlait là rapidement des deux défensives. Tu sais, les Bengals jouent en zone, les Rams en man-to-man, mais d'un point de vue moins stratégique, plus statistique, c'est seulement le troisième Super Bowl dans l'histoire qui va mettre en vedette deux défensives qui sont pas dans le top 10. Ça, c'est rare. Là. Tu sais, on dit toujours, la défensive gagne les championnats. C'est le fameux adage là, qu'on entend à chaque année au Super Bowl. Les Bengals sont 17e défensivement, les Rams 15e. Deux autres fois seulement dans l'histoire là, qu'il n'y a pas eu de défensive du top 10 qui s'affrontait. C'est quand même un fait rare, donc il risque d'y avoir là, quelques pétards durant ce match-là. Ça ne veut pas dire que les défensives jouent pas bien, mais c'est pas souvent là, qu'on voit une situation comme celle-là.
Jean, as-tu une autre? Je vais demander d'alterner, faites-en un chacun, puis on va.
Moi, j'aime beaucoup celui-là. Le premier touché de l'histoire au Super Bowl 1, il a été compté par un gars qui était lendemain de veille.
Ah ben oui.
Max McGee, le receveur des Packers, était pas supposé jouer. Le joueur partant se blesse, Boy Dollar. Lui, il avait pris un coup la veille. Il est pogné pour jouer. Vince Lombardi fait appel à lui. Il y a un match incroyable. 7 attrapés, 138 verges. Le premier touché de l'histoire du Super Bowl. Catch à une main pour 37 verges. Il était presque en boisson sur le terrain. C'est quand même spectaculaire.
Wow. Puis, un Super Bowl qui avait été remporté par les Packers.
Par les Packers. 35-10 face aux Chiefs au LA Coliseum, qui est le premier endroit. Ça coûtait $12 avoir un ticket, avoir un billet pour le Super Bowl.
On est loin des prix que j'ai vu circuler en fait.
Avec l'inflation, il parle que ce serait $90 aujourd'hui.
Ouais. Disons que le Super Bowl s'est rendu, c'est difficile de dire, je vais y aller, je vais faire un petit trip et je vais acheter deux billets à 10 000 piastres US.
Fait que Max McGee, on n'avait même pas besoin de l'envoyer au bar. Lui, il allait de façon naturelle.
Steph!
Ouais, puis en passant, juste le prix des billets cette année, là, en ce moment, là, on parle d'une moyenne entre 9 et 10 000 $ à titre de comparaison là, pour ton fun fact. Hein. Ouais. Ça, il y a une petite inflation là, modérée, disons là, comme ça. Là. Écoute, il y en a plusieurs qui se posent la question parce que les joueurs sont payés en saison régulière mais les gens se demandent souvent, est-ce qu'ils ont un salaire au Super Bowl, puis qu'est-ce qu'il y en a? Juste vous le dire, l'équipe gagnante l'an passé, les Bucs de Tampa Bay, les joueurs des Bucs avaient eu un beau petit chèque de 150 000 $ pour leur effort, tandis que les perdants chez les Chiefs, ben eux, c'était 75 000 $ Je sais pas pourquoi, c'est une question moi qui m'est revenue souvent par des lecteurs là au fil des années. On me la pose presque à chaque année, fait que j'ai décidé de la mettre dans mes fun facts parce que effectivement les salaires des joueurs sont étalés sur la base de la saison régulière, mais ça prenait quand même un petit bonbon là pour le Super Bowl. Quoique, je pense pas que rendu là, c'est le chèque du gagnant ou du perdant qui les motive outre mesure.
Non, puis souvent, ils ont des dispositions dans leur contrat aussi qui leur donnent des bonnies s'ils se rendent à telle ou telle étape dans les
séries. Des bonnies qui sont bien plus importants que ce que je viens de mentionner, d'ailleurs.
Exact. Qui représentent quand même le salaire moyen d'une personne dans le 5 % ou même dans le 1. OK, merci, Steph. J'ai un autre fun fact pour nos auditeurs.
Bien sûr. Écoute, je vais parler de tirage au sort. Souvent, ils ont des pièces qui sont faites là, de façon spéciale juste pour le Super Bowl. Mais au Super Bowl 44, se sont vraiment amusés avec ça. C'était Emmitt Smith qui était le capitaine honoraire de la partie. C'est le Super Bowl entre les Colts de Peyton Manning et les Saints de Drew Brees. Puis pour la pièce de monnaie qui a été utilisée, il l'avait envoyé dans l'espace avec la NASA pendant 11 jours autour de la Terre.
Mais non!
Eh oui! Et ils l'ont ramené à temps pour le Super Bowl pour faire tout simplement le tirage au sort. C'est quand même spectaculaire.
Quelle démesure!
Ouais, donc c'était en 2010. Ça va être dur à battre, ça, honnêtement.
Allez, une dernière chacune. Steph, t'en as-tu...
Ben oui, toujours.
Ben oui.
Écoute, moi je suis intrigué parce que cette année, Super Bowl à Los Angeles, qui met en vedette une équipe de Los Angeles, tu sais, c'est un énorme marché télévisuel. Si je vous demandais, c'est quel le Super Bowl qui a été le plus écouté dans l'histoire? Je sais pas si vous avez une idée.
Des gros marchés, mettons, je dirais...
On dirait que c'est moi qui arrive avec la question au quiz. Hein?
Ouais, mais je dirais que Tom Brady n'est pas dedans, ça se peut-tu?
Ah, malheureusement pour toi.
C'est New York Giants contre la saison parfaite je dirais que c'est celle-là.
Ça aurait été un bon choix, mais le record Super Bowl 49 entre les Patriots et les Seahawks, 114,4 millions les cotes d'écoute aux États-Unis. C'est à ce jour le show télé le plus écouté de l'histoire des États-Unis. C'est ça. J'ai hâte de voir cette semaine si ça pourrait accoter ça parce que, comme je le disais, LA est un très, très gros marché télévisuel, évidemment. Donc, ça va être un élément à surveiller après le match.
C'est un match en plus qui s'était terminé en fin de match, que ça aide aussi à attirer les téléspectateurs. Jean, toi, de ton côté?
Écoute, je vais te parler du trophée du Super Bowl. Le trophée du Super Bowl, il est fait à chaque année pour donner à l'équipe gagnante. C'est Tiffany, l'entreprise Tiffany, qui est quand même très, très connue, qui s'occupe de faire le trophée. Ça prend 4 mois pour créer le trophée. Qui est toujours fait de façon pareille. Il est 22 pouces de grandeur. Il pèse 7 livres. Il est fait en sterling silver. Puis la compagnie Tiffany est également en charge de s'occuper du trophée de la NBA, qui est le trophée de Larry O'Brien, et celui des séries mondiales. Donc, ils sont spécialistes là-dedans, et tout simplement. Et je vais te dire, il y a une seule équipe dans l'histoire de la NFL qui a été nominé pour un Grammy Award. C'est laquelle, messieurs?
Les Raiders?
Non, c'est les Bears de Chicago en 85, quand ils avaient enregistré le fameux Super Bowl Shuffle.
Ah, ben oui.
Et c'est la seule équipe qui a été nominée pour un Grammy. Donc, c'est un peu en lien avec le Super Bowl. Mais écoute, des fun facts, j'en avais ramassé quelques-uns.
Hey, les gars, si vous voulez faire vos paris avant qu'on se laisse là-dessus, là, c'est facile de savoir qui va gagner. Les Rams sont en blanc. 14 des 17 derniers Super Bowls ont été remportés par l'équipe en blanc. Donc, mettez votre cash.
Il y a une seule équipe également. Il y a un seul joueur dans l'histoire du Super Bowl qui a gagné le trophée MVP dans le rôle de l'équipe perdante. Est-ce que vous savez c'est qui, messieurs?
Ça doit être un...
C'est dans les tout débuts. Super Bowl 5.
Non, vas-y.
Secondaire des Cowboys de Dallas, Chuck Hawley face aux Colts d'Indianapolis dans une course perdante.
Merci les gars. On va en discuter tout à l'heure du MVP du match. Je vais vous demander de vous commettre et de me dire qui sera le joueur par excellence du match en fin de semaine. Mais après la pause, là, on va parler des changements d'entraîneurs parce que c'est bien beau les partisans qui ont leur équipe au Super Bowl, mais il y en a plusieurs, la majorité, là, qui ont malheureusement, qui regarderont ça de la maison. Et certains joueurs auront un nouvel entraîneur. 9 équipes ont changé d'entraîneur dans les dernières semaines. On en parle après la pause. Bougez pas.